À Delphine, mercredi 2 et jeudi 3 décembre 1914. Hier, impossible de voir le vague-mestre et impossible aussi d'écrire. Depuis notre départ de Manheul, nous avons été pas mal bousculés et assez maltraités par le temps et les événements. La garde aux issues que j'ai prise à Riaval n'a certes pas été pénible et les obus ne nous ont pas ennuyés, mais au soir, mercredi, par une pluie battante, il a fallu gagner la tranchée. Quelle tranchée ! Un fossé d'eau et de boue, insuffisamment profond, où les terres s'éboulaient. Crottés jusqu'aux cuisses, les pieds dans l'eau, plus haut que les chevilles souvent, nous avons travaillé toute la nuit à consolider avec des clés les parapets croulants de cette tranchée prise d'enfilade par les boches. Au jour, ces salauds-là nous ont bombardés. Mon camarade d'Astis a bien failli être enseveli sous les obus, tandis que dans mon coin, quelques éclats seulement tombaient à côté de moi sans atteindre personne. Toute la journée, la fusillade s'est fait entendre, et mon brave Gautier, un excellent gars normand dont je t'ai parlé, a reçu une balle dans le cou. Il est tombé comme une masse, perdant du sang en abondance, et nous l'avons d'abord cru perdu, le lieutenant et moi. Nous l'avons pensé, tant bien que mal, et peu à peu il s'est remis. Je crois que ce sera moins grave que je ne l'avais craint. C'est un ricochet qui l'a atteint, et qui n'a fait que mordre fortement les chairs sous l'oreille et à la face. Bien que faible, quand il a vu qu'il ne mourrait pas, il prétendait ne pas vouloir nous quitter. Un peu plus tard, un de mes hommes a reçu aussi une balle dans l'épaule, au-dessous de l'omoplate. La balle avait traversé le parapet, et fort heureusement, elle n'a fait que labourer les chairs sans s'arrêter à l'intérieur. Par contre, un pauvre bleu de la classe 14, arrivé depuis une dizaine de jours à la compagnie, a été tué raide. Journée dure et triste. Le temps pourtant s'est éclairci, et la pleine lune rend dangereuse la relève, car de quart d'heure en quart d'heure, même la nuit, les boches exécutent des feux sur nos tranchées. Enfin, nous sommes rentrés sans encombre à Riaville, où nous avons dormi dans une grange éventrée, après avoir fait un repas confortable. Maintenant, nous voici dans une cave à l'abri du bombardement, attendant le soir pour reprendre notre poste dans la tranchée, mais dans un autre coin moins défavorable. Le temps a l'air moins pluvieux, et c'est demain soir que nous allons nous reposer 4 jours, non plus à Manheul, mais à Ronvaux, où nous ne risquons pas d'être bombardés. Je viens d'apprendre que je suis proposé officiellement pour être nommé sous-lieutenant. Le lieutenant de la section et le capitaine ont été très chics. À la même, mardi 8 décembre 1914. Hier, au dos de mon enveloppe, je te disais de répondre à Léon Hennick. Il eût été mieux de le faire un peu plus tôt. Mais par ces temps, quelques jours de retard de plus ou de moins n'ont guère d'importance. Hennick, d'ailleurs, est un homme si charmant et si dévoué qu'il ne se formalisera de rien, et je suis sûr que tu trouveras dans ton cœur les mots qu'il faut pour le remercier de sa sollicitude à mon égard. Malgré les démarches et la proposition faite, je n'ai d'ailleurs eu aucune nouvelle concernant ma nomination future. Si ça marchait régulièrement, je serais déjà nommé, puisque j'ai mon brevet de chef de section et qu'on a promu des sous-officiers qui ne l'avaient pas, ce qui constitue une sorte de passe-droit contre lequel je pourrais réclamer. Mais je ne le ferai pas. Dès que mon capitaine, malade, sera rentré, il fera sans doute le nécessaire pour que je passe, et puis, si ça n'aboutit pas, tant pis, je m'en fous après tout. J'ai bien tout supporté jusqu'ici, je peux continuer dans les mêmes conditions. L'essentiel est que je ne suis pas malade et que j'arrive sans autre anicroche au bout de la campagne. Et maintenant, ma chérie, il me tarde de pouvoir t'aller rejoindre là-bas, à l'Andresse. Qu'il fera bon se trouver tous réunis dans la grande chambre du papa, près d'un bon poêle, devant une table bien garnie, qu'une platée de frites avec un beefsteak au beurre me fera plaisir, et plus plaisir encore de l'avoir servi par toi, chez nous. Tu emmèneras sans doute Grolino avec toi, surtout ne t'encombre pas d'inutiles bagages, et embrasse-les tous un gros coup pour moi. Peut-être pourrais-je te faire passer dans les 4 jours de tranchées qui vont suivre une petite carte, mais ce n'est pas sûr. En tout cas, sois sans inquiétude et aie confiance en l'avenir. À Michel Puy, mercredi 9 décembre. Je viens de recevoir votre carte et je vous écris du fond d'une cave où l'on nous a terrés en prévision du bombardement quotidien. Je ne sais pas s'il existe des tranchées avec bain-douche, mais les douches célestes ne nous manquent pas, et c'est entièrement cuirassé de boue que nous sortons après les 24 heures de faction pour regagner les abris. La faune de ce pays vaseux est plutôt rare. J'ai eu toutefois le plaisir, un crépuscule dans les tranchées, de me trouver nez à nez avec une perdrix qui a été tellement épatée de la rencontre qu'elle en est restée, je ne dirais pas comme deux ronds de flanc, mais bien 10 secondes immobile de stupeur. Par contre, corbeaux, buses, chouettes et hiboux pullulent. Depuis le 8 octobre, quelques cadavres boches mijotent entre les lignes de tranchées, et ce sera probablement les intestins de ces volatiles qui constitueront leur cercueil. Quand on est mort, cela n'a guère d'importance. N'était l'incommodité pour laquelle j'ai demandé les soins éclairés de votre médecin, et dont je souffre d'ailleurs beaucoup moins, je serais tout à fait bien. Ce qui m'étonne, c'est de supporter aussi bien ces fatigues. Quand j'en ai déjà vu qui paraissaient plus solides que moi à faire des stages dans les infirmeries ou les hôpitaux. Au revoir, cher ami, bon courage si vous revêtez l'uniforme. À Delphine, jeudi 10 et vendredi 11 décembre 1914. Hier, dans la tranchée, les pattes à moitié dans la boue, je n'ai pu t'écrire. D'ailleurs, l'eussé-je fait que ma carte n'aurait pas pu partir. J'ai préféré attendre à aujourd'hui, où, du fond de ma cave, à la lueur vague d'une bougie, je suis tout de même un peu plus à l'aise pour le faire. C'est une vie terriblement monotone que nous menons. Les jours succèdent aux jours et les nuits aux nuits. Un peu plus d'eau ou un peu moins, un peu plus de vase ou un peu moins, des marmites qui pleuvent, des balles qui sifflent. Je crois que ma nomination de sous-lieutenant est à l'eau pour cette fois. C'est l'histoire la plus ridicule du monde, et si le capitaine avait été là, j'aurais été sûrement nommé. Le lieutenant Legouy vient de voir à ce sujet le chef de bataillon. Celui-ci répond qu'il est navré, mais que, ne me connaissant pas, il m'a mis de moins bonnes notes qu'aux autres, parce que, paraît-il, j'avais été malade au dépôt. Or, au dépôt, jamais je ne me suis fait porter malade, et c'est fort probablement un mauvais tour qu'on a voulu me jouer, qu'on avait quelqu'un à caser là. Il a dit, le commandant, qu'à la prochaine occasion, il tâcherait de réparer ça et me présenterait. Ça sert à quelque chose de montrer de la force d'âme et de résister à la fatigue pour qu'un saligo quelconque vienne vous frustrer de ce que l'on vous doit. J'ai eu un petit mouvement de colère en apprenant la chose. Maintenant, c'est déjà passé, et j'en ai pris mon parti. Malgré les affirmations du commandant, si, à la fin du mois, je ne suis pas nommé, je refuse toute promotion et je veux rester sergent jusqu'au bout. De cette façon, en rentrant, je n'aurai pas ma plume bridée, et je pourrai dire tout ce que j'ai à dire. Il y a peut-être pour moi avantage à ce qu'il en soit ainsi. À la même, dimanche 13 décembre 1914. Nous voici à Ronvaux, au repos pour 4 jours. Il fait beau et je vais bien, mais je viens de passer, je crois, dans la tranchée, les 24 heures les plus désagréables que j'ai jamais vécues. Par une nuit d'une obscurité opaque, nous avons gagné une tranchée à moitié éboulée, où les marais de boue alternaient avec les lacs d'eau. L'emplacement que je devais occuper était un des plus mauvais. Les hommes se tenaient par petits paquets sur des îlots de terre moins boueuses. J'ai débuté en enfonçant jusqu'au genou dans un trou d'eau, et après avoir réussi, au bout d'une heure d'effort, à caser mes poilus et à placer mes sentinelles, j'ai passé sans abri toute la nuit sous la pluie. Nuit d'une obscurité effarante, où l'on entendait de temps à autre un cri de chouette dépeçant un cadavre ou le sifflement des balles boches. Et quand ce sifflement, 2 ou 3 heures, a cessé, nous étions plus mal encore, car les fils de fer de leurs tranchées ayant été coupés, nous redoutions une attaque et nos yeux fatigués, papillotant, sondaient en vain la nuit. Au petit jour, crépi debout, nous nous sommes retirés dans une autre tranchée, et dans celle-là, prise d'enfilade par l'ennemi, il y avait tous les jours des blessés et des tués. Heureusement, j'ai trouvé dans une niche, occupée déjà par 2 camarades, un abri pour la journée. Tu ne saurais te figurer le bien-être éprouvé en entrant dans ce souterrain où l'on tenait à 4. Un petit réchaud brûlait, répandant une douce chaleur. Il y avait du foin et l'entrée était close par une vague toile de tente. Une bougie éclairait cet intérieur. On m'a bouchonné, nous avons mangé, et je me suis, de 6 heures à 1 heure, endormi d'un sommeil de plomb. À 8 heures, nous avons enfin été relevés. Ça a été de nouveau la rentrée dans les champs boueux, sous les rafales de mitrailleuses, balayant le terrain au jugé, sans tuer personne d'ailleurs. La traversée de Riaville, en ruine. La boue de la route, 15 centimètres sans exagérer, et le départ pour ce nouveau cantonnement dont on nous avait dit merveille. Déception à l'arrivée. Des granges infectes, presque point de paille, pas d'emplacement pour les cuisines, mais on n'est pas bombardé. Aujourd'hui, on se reconnaît, on s'organise. Le pays a des provisions. Le cuisinier a réussi à dégoter un local. Nous mangeons bien si nous sommes mal couchés. Le soleil, d'autre part, reparaît et il fait beau temps. N'était cette boue, cette vase, qui fait dénommer les indigènes les vaseux, ce serait très joli. Malheureusement, on est mal placé pour admirer le paysage. J'oubliais de te le dire, dans le petit souterrain, j'ai gagné, avec le camarade Guillonneau, une partie de piquet au sergent Depré et au soldat Cambolive. Pendant ce temps-là, l'eau qui suintait tombait dans l'écart suspendu au plafond par des fils de fer. À Madame Marcel Martinet, lundi 14 décembre, Ronvaux, à 15 kilomètres en avant de Verdun. J'utilise pour vous remercier de votre envoi, qui est le très bienvenu, une partie du papier qu'il contenait. Je viens enfin de le recevoir. Il était quelque peu en mauvais état et des mains indiscrètes, par des fissures latérales, en avaient déjà vaguement exploré les profondeurs. Néanmoins, saucissons, dragées, chocolat, cigares, sucre, permanganate y étaient encore et j'ai fait honneur à ces provisions de choix en tapant dans le tas aussitôt. Nous voici pour 4 jours de repos, loin des balles, suffisamment pour ne pas avoir perpétuellement dans l'oreille ce sifflement agaçant et ce crépitement de castagnettes, assez en arrière du front pour ne pas risquer de recevoir des marmites comme il se trouvait lorsque nous étions à Manheul, à 3 kilomètres d'ici. Le village est toujours habité par les indigènes, des vaseux assez inhospitaliers, et samedi soir vers 10 heures, en arrivant sous la pluie, dans une grange ne renfermant qu'une maigre litière de paille, cela ne me souriait guère. Heureusement qu'on a pu trouver des provisions, et si le couchage n'est pas toujours fameux, la table est bonne. Ce réconfort était bien nécessaire après les dernières 24 heures de tranchée. Du tonnerre de Dieu, si j'ai vu jamais nuit plus obscure et plus effarante. La tranchée que je devais occuper avec ma section n'était que boue et vase, et en arrivant j'ai commencé par enfoncer jusqu'aux cuisses dans cet horrible mélange où les hommes, sous votre respect, comme disent les gens de chez nous, avaient pissé et fait autre chose encore. 1 heure durant, cherchant des îlots au moins merdeux, j'ai pataugé là-dedans pour caser mes poilus. Et il pleuvait à torrents, et l'on n'y voyait pas plus clair, comme disait Bédouin, que dans le trou de cul d'une négresse. Vous voyez que je suis très talon rouge dans mon langage. Pour corser la chose, nos bons amis les Boches nous envoyaient de temps à autre des rafales de plomb qui alternaient avec celles du vent et les mitrailleuses balayaient la plaine, non pas d'heure en heure, mais à intervalles très irréguliers, vous obligeant tout d'un coup à vous baisser si vous étiez dans la tranchée prise d'enfilade par eux, à vous coucher dans la boue si vous étiez sur le parapet. Ah, bon Dieu ! Et les chouettes et les chats huants qui se rappelaient autour d'un festin humain servi entre les lignes où une demi-douzaine de cadavres boches et français mijotaient depuis le 8 octobre. Vers 1 heure du matin, comme on y voyait toujours aussi peu, le tir des Allemands cessa. Et comme ils avaient fait des trouées dans leur réseau de fils de fer, on vint nous avertir de veiller avec soin parce qu'on redoutait une attaque. Et nous voilà tous au parapet, sondant ce silence et cette obscurité, la pluie et le vent vous fouettant la gueule, pardon, la face. Nous ne fûmes pas attaqués, mais vous vous représentez l'état physique et moral dans lequel nous étions au petit jour. Nous avons alors évacué cette partie de tranchée trop dangereuse, parce que prise d'enfilade, pour en gagner une autre plus hospitalière, et j'ai trouvé asile dans une niche occupée par des camarades nantis d'un réchaud, ayant de la paille et des provisions chaudes, qui m'ont bouchonné, réconforté et roulé dans les couvertures où j'ai dormi 6 heures durant d'un sommeil de brute. À 1 heure après-midi, un peu remis, je suis sorti de mon trou pour faire un carton sur les tranchées boches et nous sommes rentrés dans notre souterrain où nous avons attendu la nuit en faisant un piquet et en prenant une tasse de thé. À 5 heures, je regagnais ma vase et à 8 heures, j'étais enfin relevé avec mes hommes. 12 kilomètres de marche dans la boue jusqu'aux chevilles et nous étions rendus à notre cantonnement où nous allons rester 4 jours en attendant de recommencer. Voilà en partie notre vie. Je voudrais que les salauds de journalistes qui parlent du confort des tranchées vinssent passer 24 heures dans les nôtres. Quel tempérament y résisterait? Tous les jours on évacue des malades. Ce qui m'étonne, c'est que j'ai tenu si longtemps et que j'ai l'air de tenir encore. Je ne me sens ni fatigué, ni malade physiquement, car tout de même il y a des heures de lassitude morale où l'on aspire à la rentrée au foyer et où on se demande quand cette charogne d'existence prendra fin. Les Russes feraient bien de se hâter un peu, car si ça dure encore 6 mois, nous passerons tous certainement à l'infirmerie ou à l'hôpital, si les balles et les éclats d'obus ne nous mettent pas en morceaux avant. Car ils ne se privent pas, messieurs les Boches, de nous envoyer des marmites. Il ne reste rien de frêne en Vèvre que la statue du général Marguerite qui a toujours l'air de défier les barbares. Et dans ces ruines, cette mâle silhouette d'airain a quelque chose de symbolique et d'empoignant. Riaville, un petit village juste en arrière de nos tranchées, n'est qu'un monceau de ruines dans lesquelles le génie nous a aménagé des caves et creusé des abris où les fractions de réserve se terrent durant les bombardements quotidiens. Que de ruines et que de misère. Mais on n'y pense pas, on n'a pas le temps d'y penser. Tout ce qui n'est pas absorbé par les soucis du service s'en va vers ceux qu'on a laissés là-bas et qui nous attendent. Quand nous retrouverons-nous tous devant une bonne table et de bonnes bouteilles? Je n'ose y penser. Ne nous amollissons pas. Au revoir, cher ami. À Delphine, mardi 15 décembre. Rien n'est encore fait pour les nominations d'officiers, et bien que je ne conserve qu'un très vague espoir, tout n'est quand même pas perdu. Au reste, ça m'est égal à présent. J'ai eu comme un gosse un jour ou deux envie de ce galon, surtout après les lettres de Hennick et aussi parce que j'en espérais un peu de bien-être et moins de fatigue. Mais il en est de ce désir-là comme des autres. Il s'use. Si on me nomme, tant mieux. Si on ne me nomme pas, tant pis. Le seul désir qui me reste au cœur est de te revoir et de te serrer dans mes bras. Comme j'ai pensé à toi hier, durant ces heures de semi-engourdissement où je reposais sur ma paille sous les solives d'une grange décorée de toiles d'araignée. Ah, comme je suis heureux d'avoir trouvé une épouse et une amante comme toi, ma chérie, si pétrie de cœur et d'intelligence, qui m'aime et me comprend, à qui je peux tout dire et me confier tout entier. Quel paradis sera notre nid quand je serai rentré. Descaves m'a envoyé une carte charmante, pleine de cœur. Il m'aime bien, lui aussi, va, et me sait gré de lui donner de mes nouvelles de temps à autre. Tu ne saurais imaginer combien ce réseau d'affection que je sens autour de moi me fait plaisir et me remet du courage au cœur. Voici déjà longtemps que je n'ai rien reçu de Hennick et cela m'ennuie. Sans doute l'état de son frère se sera-t-il aggravé. Marguerite m'a répondu une carte très gentille. Ronny m'envoie de temps en temps, lui aussi, une carte affectueuse. À Lyon-Hennick, mercredi 16 décembre. Je joue décidément de malheur et je reçois coup sur coup. Aujourd'hui, j'en ai gros sur le cœur et c'est à vous que je veux me confier. La proposition pour sous-lieutenant n'a sans doute pas eu de suite parce qu'on a confié au chef de bataillon que j'étais maladif, ce qui l'a incité à me mettre de moins bonnes notes qu'aux autres candidats, mais cela n'est rien. Après 4 jours terribles de tranchées dans la boue et l'eau et sous la pluie, nous venons de passer 4 jours de repos dans un petit village, Ronvaux, où nous avions pour la compagnie 3 petites granges. Mes hommes n'ayant pas assez de place, je suis allé coucher dans la grange en face, laissant à mon collègue le soin de surveiller les hommes. Le lendemain, j'étais pris d'un violent mal de tête, fièvre et courbature, incapable de me tenir debout, et 2 jours durant, je suis resté étendu sur la paille. Pendant ce temps, le soir, à la nuit noire, un vol de poule a été commis dans un poulailler voisin. Mon collègue et tous ses caporaux affirment qu'à ce moment-là, toute la section était dans la grange, mais la propriétaire accuse la compagnie. De poule, on n'en trouve pas vestige. plainte au colonel commandant la brigade, le colonel Couturet, il faut un responsable. Le lieutenant commandant de la compagnie me désigne comme le plus ancien sous-officier et l'on ne parle rien de moins que de me casser pour l'exemple. Après explication, la punition se réduit à 15 jours d'arrêt. Et voilà comment, après avoir tout fait, comment étant malade et incapable de bouger, je suis puni pour un acte que je ne pouvais ni prévoir, ni éviter, ni punir, un vol que mes hommes n'ont pas commis et qui, naturellement, m'ôte tout espoir d'obtenir jamais le galon de sous-lieutenant. Je ne veux pas m'apesantir là-dessus. Il est des injustices trop hurlantes. Et si je n'avais pas ma femme à la maison, je vous jure que j'attendrais toute la nuit debout sur la tranchée, ma balle libératrice. Je n'ai jamais été puni en temps de paix. Il a fallu que la guerre vînt, que je fasse du zèle et que je souffre souvent comme un damné pour rester à mon poste, pour en arriver là. Ça peut suffire pour une fois. Mais je vous ennuie en vous parlant toujours de moi. Comment allez-vous, mon cher maître? Voici déjà longtemps que je n'ai rien reçu de vous. J'espère que votre santé est bonne et que l'état de votre frère s'est amélioré. Ma femme est encore à Paris, elle est toujours aussi courageuse et vaillante, la pauvre chère, et ne connaît pas toutes mes peines. À Delphine, mercredi 17 décembre 1914. Dans la grange que nous occupons, nous avons à quatre une place réservée sous le toit. Tu ne saurais te figurer cette chambrée. De la rue, boueuse à souhait, on entre par une porte à moitié enfoncée dans une espèce d'avant-grange occupée par deux chevaux, deux bourrins, comme disent les hommes, qui ont rué tellement la nuit dernière qu'ils ont défoncé une cloison de briques séparant cette partie de la maison du couloir attenant à la cuisine. L'un des deux carcans même a si bien fait qu'il a réussi à tomber dans la cave, d'où on l'a retiré comme on a pu. De l'écurie de ces bourrins, on grimpe par une échelle boiteuse dans la grange, qui ne contient naturellement comme fourrage que notre paille de couchage. Là, tout le long des murs, les hommes sont étalés, l'équipement, le fusil et le sac à leur tête, et le soir, sous les couvertures, malgré le vent qui fait rage et la pluie qui tombe, ce sont des ronflements sonores, des respirations plaintives, des voix de rêveurs somnambules ou des protestations vigoureuses. « Un salaud, vache, couillon !» d'un poilu réveillé par son voisin et qui marche dessus en allant pisser. De jour, on se brosse, on se nettoie, on astique les armes, on se raccommode, on papote, on bouffe. À Manheul, dans un de nos derniers cantonnements, un de nos cabots avait trouvé, abandonné par ceux qui étaient venus avant nous, 13 boîtes de viande de conserve, des boîtes de 300 grammes de viande, qu'il a bouffées en 3 jours, en plus de l'ordinaire, qui est déjà presque suffisant, et il n'en a, paraît-il, pas été incommodé le moins du monde. L'état de saleté dans lequel on revient des tranchées est indescriptible. Heureusement que j'ai un tambon très dévoué qui se charge de décrotter et d'astiguer mon flingot. Cela me décharge d'un grand poids. Des histoires amusantes, parfois, se racontent à table. Un poilu de la première section part tous les soirs à la tranchée, chargé comme un mulet, avec un seau à charbon, des boîtes, des paquets, un bâton. Il est si large qu'il a peine à passer par les boyaux. Alors, quand il est coincé au passage difficile, on l'entend gueuler « Hé, les copains, à moi !» et 4 hommes le tirent, le poussent, le hissent, jusqu'à ce qu'il en sorte. Bref, quand il arrive, il n'a plus rien et il a du tout abandonné en route. C'est le même type qui, de sentinelle, une nuit obscure, à 20 mètres en avant de la tranchée, a trouvé moyen de s'égarer pour revenir et a erré 1 heure dans les réseaux de fils de fer en criant « France, France, hé, les copains, c'est moi !» jusqu'à ce qu'un caporal, se demandant quel était l'asticot qui faisait ce potin, soit allé l'en tirer à moitié mort de peur. Je ne peux te narrer tout ça en détail, mais c'était à mourir de rire. À Léon-Hénic, vendredi 18 décembre. Je viens de recevoir votre carte datée du 14, et cela me rassure à votre sujet. Je vous ai écrit avant-hier, entièrement sous le coup de l'émotion, d'avoir été injustement frappé, une lettre un peu triste. Maintenant, je me dis que ce mince événement est bien peu de chose en comparaison des injustices et des crimes qui furent commis dernièrement, et je souris presque de mon indignation et de ma colère. Sans doute, j'en garde toujours au cœur une blessure secrète, mais elle n'agrandit pas trop celle qui saigne déjà. Merci 1000 fois et de tout cœur de la sollicitude paternelle que vous me témoignez. Des affections comme la vôtre consolent de tout. Je ne saurais vous dire combien je suis fier et honoré d'être considéré par vous comme un ami, que je puisse seulement vous le dire un jour de vive voix. Je vous ai dit que j'avais été proposé pour le grade de sous-lieutenant par mon commandant de compagnie, mais après la punition, si injuste soit-elle, je me demande si malgré vos démarches, j'ai encore le droit d'espérer. La nuit dernière dans la tranchée était terrible. J'ai dû reconnaître, avant d'y mettre les hommes, des îlots de tranchées habitables, et à plusieurs reprises, je suis entré dans l'eau et la vase jusqu'aux genoux. Et je me suis réchauffé et séché à demi, qu'à force de battre la semelle et de courir sur la tranchée, au risque de recevoir des balles boches. Mais, foutu pour foutu, il fallait bien trouver un remède à la situation. À Delphine, vendredi 18 décembre 1914. Le village de Riaville n'étant plus que ruine et deuil, comme dirait Victor Hugo, c'est à Pinteville, à 1 kilomètre en arrière, que nous sommes venus installer pour 24 heures nos pénates nocturnes. C'est du fond d'une cave bien garnie de paille, où je viens de dormir 7 heures au chaud, que je t'écris. L'installation présente le pittoresque habituel de nos logis temporaires, même des corps, de poutres moisies, de toiles d'araignée, mais qu'importe, on est au chaud et tranquille. Depuis Ronvaux, il m'est arrivé pas mal de mésaventures que je vais te conter. C'est sur une bonne impression qu'après une marche de 12 kilomètres sous le vent et la pluie, de la boue jusqu'aux chevilles, que je suis arrivé aux tranchées. Cette fois, nous devions occuper la partie droite, la plus mauvaise, quelques îlots avec des fascines et des claies pour qu'on puisse tenir sans avoir de l'eau trop haut. Le principal, dans la nuit, est de dénicher des coins vaguement habitables. Mais monsieur, mon lieutenant, ne tient pas à se mouiller les pattes, c'est moi qui me suis chargé de cette charmante besogne. Avant-hier, au soir, j'en avais jusqu'aux genoux, dès le premier essai. Un peu plus loin, j'ai glissé du parapet, et j'avais déjà de la vase jusqu'aux genoux, quand un de mes caporaux, en me donnant la main, m'a heureusement tiré de ce pétrin. Enfin, j'ai découvert un espace de 5 mètres où l'eau courait sur des fagots et sur lequel nous avons tenu à 14 toute la nuit. De jour, tout le monde s'est replié, sauf 10 hommes et moi, qui sommes restés à grelotter dans cette tranchée, presque sans parapet et prise d'enfilade par les boches. Heureusement, il n'a pas plu et ils n'ont pas trop tiré. À la même, dimanche 20 décembre 1914. Ma dernière journée de tranchée m'a un peu fatigué, encore qu'elle n'ait pas été trop pénible, ainsi que je te l'ai dit dans ma carte d'hier. Mais je n'ai pas dormi, et c'est cela qui m'a vanné, vanné, comme dit un de nos camarades, en appuyant sur là comme un bâton de vieillesse. Les boches ont été moins assommants que d'habitude, ils ont très peu tiré. Sans doute ont-ils de l'eau jusqu'aux jarrets, et se trouvent-ils placés, les pauvres, dans de mauvaises conditions physiques et tactiques. De l'autre côté du chemin, de Fresnes à Manheul, dans le secteur du 324e, nous les apercevons, par moments, vidant leurs tranchées. Les flaques d'eau sautaient, luisant un instant sous les coups de soleil qui se montraient par intervalles. Avant-hier, dans les tranchées à notre gauche, qu'occupait la 12e compagnie, et qui sont à peine à 80 mètres des tranchées ennemies, il y a eu, vers 2 ou 3 heures de l'après-midi, une longue et bruyante conversation entre soldats boches et troufions français. D'après divers témoins entendus, elle aurait à peu près débuté ainsi. « Eh, camarades, avez-vous bien dormi? Nous ne vous avons pas trop empêté. Ne tirez pas, nous ne tirerons pas. » Réponse aimable du côté français. On monte de part et d'autre sur le parapet, les boches offrent du schnaps et des cigares contre du pain, et l'on cause. D'après eux, les Russes sont foutus, les Anglais aussi, ils vont entrer à Pétrograd et à Londres. « Et toi, tu reviens à Paris ?» riposte un Parisien. « Non, mais des fois, à cause à l'autre. » Un boche s'est avancé, un paquet de tabac comme un rameau d'olivier au poing entre les tranchées, mais il s'est arrêté à mi-chemin entre les réseaux. On dirait qu'il ne professe plus pour nous la haine héréditaire qu'il nous témoignait auparavant, et que ce sentiment pour lequel ils ont une capacité particulière se soit reporté sur l'anglais. Mais ces beaux préliminaires, la conversation s'en est tenue là, le colonel, à très juste titre, ayant interdit de communiquer de n'importe quelle façon avec l'ennemi. J'ajoute que ces gens-là ont donné suffisamment de preuves de mauvaise foi pour qu'on ne s'attache pas à ces démonstrations d'une sympathie bien tardive, plus d'importance qu'elles doivent avoir. Cela pourrait bien masquer une trahison nouvelle, et toutes ces belles demandes et promesses pourraient bien ne viser qu'à endormir notre vigilance. Heureusement qu'on n'en tient pas compte et qu'on veille plus que jamais. À la même, lundi 21 décembre 1914. Rien de bien particulier, sinon qu'on veut me faire travailler encore au très très vain arrangement du boyau. J'y conduis mes poilus, jusqu'à Riaville ce n'est que boue et eau. Je les attelle à un vague escalier et je viens me reposer sous l'abri près du brasero où je sommeille un peu. Le goui vient et recommande de redoubler de vigilance. Pluie et vent, nous sommes glacés. Au petit jour, je laisse l'abri aux hommes et vais dans le mien où je m'endors sous la pluie qui dégoutte du plafond. Dans l'après-midi, on se tasse près du brasero. Enfin, la relève. À la même, mardi 22 décembre 1914. Les vaseux, c'est des indigènes que je parle, sont aussi inhospitaliers que possible. Le vieux salaud chez qui nous sommes cantonnés ne disait-il pas qu'il vaudrait mieux que deux ou trois marmites viennent à dégringoler sur le village? Il a eu de la chance que je ne l'entende pas. Tout ça parce que son foin sera naturellement perdu, mais il ne pense pas, le vieux singe, au village bombardé et détruit de fond en comble, alors que le sien n'a souffert, si l'on peut appeler cela souffrir, que du passage ou du stationnement des soldats. On ferait rudement bien d'évacuer toute cette vermine civile, en qui on ne peut d'ailleurs avoir qu'une confiance limitée. Et tous ou à peu près sont à l'avenant. Pourtant les épiciers et les bistrots font des affaires en or. J'ai reçu ton colis de Noël, le 5 kilos, envoyé par chemin de fer. Quelle joie j'ai éprouvée en retirant une à une toutes ces bonnes choses, comme je sentais tout l'amour et toute la bonté d'âme qui avait présidé à ce gentil arrangement. Ce n'est pas tant pour les gâteries dont tu me combles, sans doute je les partagerai avec joie avec les camarades, mais j'y sens tellement ton amour, ton cœur, ma chérie, que j'en suis remué profondément. Comme tu étais bien l'épouse et l'amante que j'avais rêvé, mon bon petit, et comme je saurais te prouver plus tard un jour combien tu m'es cher. Ceci me fait penser à cette pauvre Jo dont tu me parles. Oui, bien sûr, je lui écrirai. Je sais combien ces rappels de souvenirs sont douloureux, mais si elle est encore là-bas quand tu recevras ce mot, dis-lui bien que j'ai pleuré en cachette de ce bon Chicon, cet ami que j'aimais de tout mon cœur et que je ne passe guère de jour sans penser à cette belle intelligence disparue et sans songer aux heures charmantes vécues ensemble. Les larmes me montent encore aux yeux. À la même, jeudi 24 décembre 1914. D'avoir été hier deux jours, j'ai coupé à une marche et à une revue aussi ennuyeuse que possible. Hier matin, en effet, les camarades ont dû faire 4 ou 5 kilomètres pour aller se présenter devant le général B de M, le général Marmite, comme on l'appelle, depuis sa venue à Manheul. Et une revue qu'il voulut déjà faire passer là-bas à 10 heures du matin amena sur le village une pluie de marmites qui fit 5 ou 6 morts et autant de blessés, affaire que j'ai dû te compter au moment où elle s'est passée. Ce matin donc, il a recommencé. Seulement, comme il craint les pluies de marmites, il passe ses revues très en arrière. Cette attitude est très mal vue des hommes qui, déjà fatigués, ne tiennent pas à faire des marches aussi stupides pour des revues aussi ridicules. Naturellement, comme ils avaient encore sur leurs effets une partie de la boue des tranchées, ils se sont fait engueuler et les officiers y tout. Il y a encore eu une nouvelle histoire de vol de vieux tonneaux que des poilus auraient cassés pour les transformer en bois de chauffage. Enquête, contre-enquête, c'est encore la compagnie qui écope. Avec les poules, il y en a pour 120 francs. Mais ce n'est plus moi qu'on rend responsable et ma punition n'a pas encore été portée. Je pense qu'on n'osera pas le faire. En tout cas, ce n'est qu'une punition de pure forme et maintenant je m'en fous, contre-fous et sur-fous. Après le beau soleil de ces jours derniers, c'est la neige qui tombe aujourd'hui. La terre est déjà toute blanche et ça continue, doucement, lentement, avec la tranquillité sereine dont j'ai parlé dans l'histoire de mon vieux renard. T'ai-je demandé un petit sachet de camphre avec des cordons pour que je le suspende sur ma poitrine? Il paraît que ça éloigne la vermine. Je n'en ai pas encore, mais presque tous les hommes se sont déjà trouvés des poux. C'est presque inévitable avec les promiscuités et le couchage en commun dans des locaux occupés par on ne sait qui et la quasi-impossibilité de se nettoyer, sauf pendant les jours de repos. Je crois assez que j'ai une peau que n'affectionne pas la vermine, mais il vaut mieux se garer que d'avoir à faire la chasse à ces bestioles aussi peu sympathiques que les boches, même pour un animalier. Hier et avant-hier, on a vacciné contre la typho. J'ai parlé au médecin de ce que je savais au sujet de cette opération et des cas que m'ont signalé les infirmiers. Il m'a affirmé que ce nouveau sérum est excellent et qu'il est efficace même contre les cas de paratyphoïde. Malgré cela, je me suis abstenu d'aller présenter mon dos au bistouri. Beaucoup de ceux qui y sont allés sont malades comme des chevaux, et comme on n'a que la paille des granges comme pucier, ce n'est pas plus drôle que ça. Ce soir, ma chérie, nous allons réveillonner tous en cœur. En plus de tes provisions, il y aura du jambon, des huîtres, des tripes, des petits pois, salade, orange, bordeaux et champagne. Je vais bien penser à toi, à nos bons réveillons antérieurs, ainsi qu'aux réveillons futurs, qui seront meilleurs encore, parce que nous aurons souffert. À la même, dimanche 28 décembre 1914. Depuis notre réveillon, qui s'est bien passé, nous sommes revenus, et de le premier jour, je prenais le commandement d'un petit poste de soutien d'artillerie au château d'Aunoy. Ce n'était pas très confortable, mais des plus pittoresques. Un petit ruisseau passe par là, et comme il faut être absolument dissimulé au vu de l'ennemi qui n'est pas loin, on a établi le poste sous un pont de pierre traversant la route. Les artilleurs ont installé là un plancher sur pilotis. L'ouverture du côté ennemi est murée par des planches. Un brasero allumé est là, au milieu, avec des fauteuils et des bancs de jardin sur lesquels on s'installe. Il y a quelques courants d'air, mais on est bercé par le susurrement de l'eau qui chante sur les cailloux et réveillé par les grondements du 75 qui tonne à quelques pas en voyant aux boches des tranchées de Marcheville et de Mazeray sa pluie de mitraille. Nous avons passé la journée sur le qui-vive, car l'offensive est reprise et la compagnie était dans les tranchées et cela tonnait dur aux alentours. Notre cuisinier nous a fait un excellent repas, très bien conditionné, mais malgré le brasero, quatre hommes ont eu les pieds gelés. Pourtant, le froid n'était pas trop vif cette deuxième nuit. C'était gelé, mais il n'y avait pas de vent, et j'ai pu reposer 2 ou 3 heures dans un abri étroit de la tranchée. Dans la journée, déception, temps couvert et dégel, et aujourd'hui, la pluie, encore la pluie, fine et lente. Nous avons reçu à la section pour Noël un certain nombre de petits paquets, cadeaux anonymes ou non. La plupart contenaient du tabac, quelques-uns des choses utiles et d'autres des bizarres, comme des paquets de cure-dents. Tous avaient aussi une lettre de l'envoyeur ou de l'envoyeuse. J'en ai réuni 3 que je garde comme documents et que je joins à cette lettre après en avoir pris copie, comme de tous les documents intéressants que je t'envoie. La poste ou le service spécial du contrôle se goure étrangement si elle se figure que je n'ai pas gardé sur mon carnet de route les notes me permettant de reconstituer ma vie durant toute la campagne et que je te raconte au jour le jour dans mes lettres. On en a retenu sûrement quelques-unes, mais c'est bien peine perdue et le journal de Clémenceau aura tout ça plus tard à sa disposition. À la même, mardi 30 décembre. Depuis notre nuit sous le pont, ce n'est pas mal allé. Nous avons eu malheureusement le dégel, de la boue et de la boue. Le clair de lune rendait difficile la relève qui s'est pourtant effectuée sans coup de fusil. Nous avons débuté par une rafale de pluie et de grêle qui nous a transis, et après, jusqu'au jour, on a pataugé là-dedans. J'ai dormi dans un abri dans lequel je pouvais me tenir couché ou sur le flanc. Impossible de se lever et de sortir de son trou sans risquer de recevoir une balle dans ce mauvais coin de tranchée pris d'enfilade par les boches. C'est long, 10 heures sans bouger, sans pisser, sans se lever. Les hommes avaient les pieds glacés. Avec ça, un clair de lune extraordinaire et les feux des mitrailleuses ennemies. Heureusement pour la relève, la lune s'est voilée et nous n'avons pas été trop mitraillés. À la même, mercredi 31 décembre 1914. Ce ne sera pas dans notre petite chambre ou dans le grand dodo que je te présenterai mes souhaits, et c'est d'une petite cave où nous avons dormi assis sur la paille que je t'écris. Ma bougie fichée sur ma caisse, les camarades allongés dans leur tenue de nuit, c'est-à-dire ensevelis sous la couverture grise, le bonnet de police et le passe-montagne rabattus sur les yeux. Les uns dormant encore, les autres se souhaitant le bonjour, je suis là, couché, un coude sur la paille, mon papier appuyé sur mon carnet, à penser à mon cri-cri, à nos nouvel an passé et au prochain aussi, qu'il me serait doux, ma chérie, de te dire combien je t'aime et combien tu m'es chère. Mon bon cri-cri, sois courageuse, sois encore vaillante quelque temps, et soigne-toi bien surtout.